Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Marie Desmoulis, bonjour.
Bonjour à tous.
Un quatrième entretien consacré, une série consacrée à votre sainte, puisque vous avez eu un coup de cœur en 2001, en arrivant à Pau. Deux ans après, vous découvrez providentiellement, par hasard, mais nous dirons providentiellement, Sainte Mariam de Jésus crucifiée, carmélite, née en 1846, décédée en 1878, un peu la même époque que Bernadette. Hein. Elles sont très proches, toutes les deux. Oui. Elles se sont croisées sur le chemin.
C'est ça,
Voilà, Mariam est arrivée en 1867 et Sainte Bernadette a quitté Lourdes, je crois, en 1866. Deux belles et deux grandes saintes dans cette région.
C'est ça, oui, la Sainte Vierge aime beaucoup cette région.
Voilà, et toutes les deux région. De grandes grâces mariales. On l'a vu aussi dans la vie de Mariam. Alors Mariam, c'est une carmélite avec de nombreux charismes. C'est aussi le charisme de fondation. Elle fonde aussi. Alors racontez-nous, elle est ici dans ce Carmel de Pau et elle va quitter un temps Pau pour aller fonder.
Voilà, pour aller fonder. En 1866, donc, Monseigneur Ephrem, qui est missionnaire en Inde, visite le Carmel de Pau et il désire la création d'un Carmel là-bas. Et il veut que ce soit la petite Mariam qui soit l'auteur de cette fondation. Il insiste pour que ce soit la petite arabe qui en soit la fondatrice. Et le problème, c'est l'argent. Et la Providence va toujours être là parce que l'idée est acceptée, mais où trouver l'argent? Et providentiellement aussi, en 1870, une jeune fille donc, qui s'appelle Mathilde Nédonchel, qui est décédée, en fin de compte, apparaît à Mariam. Donc, elle annonce que son père sera le généreux donateur pour ce projet. Et donc, les sœurs vont partir quitter Pau en août 1870. Hein. Et là, c'est un grand voyage, parce que l'Inde n'est pas à côté. On n'a pas les moyens actuels. Et donc, elles partent, ce sera 7 carmélites qui partiront. Un voyage très long. Et il faut savoir que 3 carmélites vont décéder pendant ce voyage, dont la mère prieure, qui est mère Élie. Et le Seigneur, dans les confessions, dans cette biographie de l'ouvrage du Père Estrat, raconte que ce sont des victimes. Le Seigneur demande des victimes pour la fondation de ce Carmel.
C'est-à-dire des victimes, des martyrs?
Oui, des martyrs. Oui. En fin de compte, on a vraiment l'impression, je trouve que ça rejoint que l'Église est aussi fondée sur le sang des martyrs. Donc, ces carmélites, ces religieuses, ce sont des épouses qui offrent leur vie hein, toujours pour le salut du monde. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez on n'a pas un bon regard sur les religieuses. C'est elles qui, dans le secret, en fin de compte, portent l'Église. Elles se sont offertes aussi pour la vie de l'Église. Donc, pour elle, c'est naturel, en fin de compte. Dans le voyage, quand Mariam comprendra que ses sœurs vont offrir leur vie pour que ce projet aboutisse, elle dira à Mère Élie, si le Seigneur vous demandait 3 roses, est-ce que vous leur offririez? Et donc, Mère Élie dit, mais bien sûr, donc elles sont... je trouve que voilà, c'est beau parce que c'est naturel. Ce sont des voix qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'on n'en parle pas comme ça, mais en fin de compte, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est vraiment la terre sur laquelle va naître ce Carmel de Mangalore. Voilà. Et au cours de la fondation, alors elle va faire sa profession de foi. La Sainte Vierge lui avait dit aussi qu'elle prendrait l'habit à Pau, mais qu'elle ferait sa profession de foi en terre lointaine, donc en Inde. ce qui se produira. Mais par contre, quand même, l'Inde, c'est quelque chose de... C'est 2 ans de sa vie où ça va être aussi un échec parce qu'elle va avoir des grâces mystiques là-bas qui seront pas reconnues de la même façon qu'en France. Monseigneur Ephrem va condamner les voies surnaturelles de la novice. Et donc, elle va être envoyée. Elle va être envoyée à Pau. Donc, elle va vivre beaucoup d'incompréhension là-bas. Elle sera calomniée. C'est aussi beaucoup de souffrance, donc, cette fondation.
Donc, elle vit dans cette fondation en Inde, oui. Des persécutions, des humiliations.
Oui. Oui.
Elle les vit comment? Elle traverse, on découvre avec vous, pas à pas, cette vie de Mariam, humble et obéissante. Elle vit ses épreuves de persécution, au fond, dans l'abandon.
Oui,
dans
voilà.
La confiance, où elle doute, hein, où elle vient à douter un peu même de, je dirais, de tous ces dons surnaturels que le ciel lui a accordés.
Elle est comme ça, de toute façon, par nature. Elle se voit comme un néant. Elle pense qu'elle n'est
que... Le petit rien.
Le petit rien. Ouais. Elle pense qu'elle n'est que péché. C'est très touchant. Elle est complètement aveugle à sa sainteté. Je crois qu'elle accepte tout. Elle offre tout.
Ça, elle renonce à tout.
Elle renonce à tout, oui. Elle renonce à tout. Et oui, c'est une grande épreuve, hein, cette première fondation. Beaucoup de souffrance. Parce que là, c'est quand même une communauté aussi qui ne la reconnaît pas. Ça fait penser un peu à son postulat chez les sœurs du couvent de Saint-Joseph, oui. Où elle n'est pas admise, alors qu'elle a les stigmates. Et ça effraie, ça effraie. Donc
elle est repoussée à cause.
Elle est repoussée
pour ses dons, je dirais, surnaturels.
Oui, qui dérangent aussi souvent aujourd'hui. On nous demande de pas voir de pas s'attacher à toutes ces choses extraordinaires. Et moi, en fin de compte,
qu'est-ce que vous en pensez vous, puisque vous nous présentez une sainte extraordinaire.
Je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que les apôtres ont cru parce que justement il y a eu des miracles. Et donc aujourd'hui, caché, le Seigneur l'a voulu. Donc s'il l'a voulu, c'est pas pour rien, c'est pour édifier, pour montrer sa grandeur, son existence. Il serait pas Dieu s'il n'y avait pas ces grâces extraordinaires. C'est pour notre foi, c'est pour qu'on croit. C'est justement nous fortifier. Je crois que moi, j'ai envie de révéler toutes ces choses parce que la foi, justement, on dirait aujourd'hui, est presque morte. Elle a besoin de revivre et c'est en découvrant toutes ces choses qu'on a cachées. Elles viennent de Dieu, donc elles ne peuvent pas faire du mal. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous fait rêver Dieu. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que Mariam est aussi cachée, aussi peu connue, au fond? Est-ce que vous avez une réponse?
Non, justement, j'ai pas de réponse. Moi, je ne comprends pas. En fin de compte, je suis là parce que justement, en fin de compte, ça me fait souffrir. Même, je dirais, je pense que si on ne cachait pas tout ça, les gens aussi viendraient en pèlerinage à Pau, viendraient demander des grâces à cette petite sainte qui a tant souffert. Elle est conduite à Jésus. Elle est là pour les consoler. Elle a été donc, on l'a vue orpheline. Elle a subi, elle a été malade énormément de fois, elle a été guérie, elle a eu la cécité, elle a porté beaucoup de...
Elle a eu la possession.
Elle a eu la possession, donc autant de souffrances morales, spirituelles, physiques que corporelles. Donc tout le monde peut la rejoindre. Et alors surtout ce qu'elle dit, et c'est qu'en fin de compte, tout ce qui nous arrive dans notre vie, ce sont des grâces, même toutes ces souffrances. En fin de compte, le Seigneur, il choisit ceux qui sont capables de souffrir. Il faut que il y a un plan de salut derrière toutes les souffrances. C'est vraiment, moi, je vois les choses comme ça et je m'explique pas justement qu'on fasse pas, qu'on enterre toutes ces choses. Ces belles choses qui nous permettent de nous raccrocher au ciel. Justement, notre vie, sinon, la vie spirituelle est terrestre. Il faut qu'elle soit céleste. Il faut qu'elle elle relie au ciel.
Qu'elle donne le goût du ciel.
Voilà, exactement. Un Dieu qui nous regarde, qui
console.
Qui console, qui guérit. Miséricordieux, qui guérit. Voilà. Il existe, mais il faut qu'on en parle, justement, qu'à nouveau, on le dise.
Moi, je... Donc, on peut en parler avec la Sainte Mariam de Jésus crucifié.
C'est ça.
Tous ces dons, mais qui sont des dons surnaturels. Elle qui se disait, vous l'avez dit, et on le redit, qui se disait le petit rien.
Le petit rien, oui. Elle se voit vraiment comme un grain de poussière. Ce sont ses termes aussi. Hein. Elle n'est pas plus qu'un... Mais alors, c'est une très belle image, comme le grain de poussière qui... Par contre, ça lui permet de s'envoler.
Et elle montre le ciel à toute une communauté de sœurs.
C'est ça, oui. Oui,
Qui sont témoins.
Monseigneur Lacroix, vous l'avez cité dans une autre...
L'évêque de Bayonne à l'époque.
L'évêque de Bayonne, qui, en fin de compte, demandera effectivement à certaines sœurs d'écrire tout ce qui se passe en extase, puisqu'elle nous révèle énormément du ciel. Et donc, toutes ces communications vont être écrites.
Et au fond, elle ouvre les portes du ciel, Mariam, quand on vous écoute.
Oui. Oui, c'est une très grande...
On cherche toujours des clés pour vivre,
oui.
Des clés peut-être pour ouvrir cette porte du ciel. Eh bien, quand on décrit, je dirais, et quand on relie avec vous et qu'on fait un peu ce voyage du côté de ce Carmel de Pau, on se dit, eh bien, il y a des grâces qui nous montrent la direction du ciel. Pourquoi s'en priver Alors, découvrons encore, et je vous donne rendez-vous, Marie Desmolis, dès demain. Ça sera ce dernier rendez-vous autour de Mariam, avec, je l'espère, ce désir d'aller plus loin avec Mariam de Jésus crucifié, qui, je le rappelle, a été canonisée sous le pontificat du pape François le 17 mai 2015. À demain.
Merci.